Studio Tamani, toutes les voix du Mali.
Studio Tamani, voici les informations en français.
Merci d'être à l'écoute de Studio Tamani, les 18h partout au Mali. Mesdames, Messieurs, bonsoir, voici les titres. Les régions de Kidal et Ségou sont les localités les plus touchées par la pose des engins explosifs improvisés selon le rapport de OCHA datant du 9 septembre dernier, une situation qui impacte de manière considérable le travail des humanitaires. Une session de formation sur la prise en charge des blessés victimes des conflits armés et d'autres situations de violence au Mali a débuté ce mercredi à Kati. L'initiative est du CICR en collaboration avec la Polyclinique des armées. Comment les co-épouses doivent-elles se comporter pour plaire davantage à leur mari? Une saine concurrence entre co-épouses peut-elle rendre un mari heureux? La rubrique Zoom sur d'aujourd'hui nous le dira. Serun Dawet à la technique. Présentation, Lala Diaraturi. Merci pour votre constante fidélité. Nous commençons cette édition par ce rapport de l'Agence onusienne de coordination de l'action humanitaire au Mali, OCHA, publié le 9 septembre dernier, qui démontre qu'au Mali, la pose des engins explosifs improvisés a beaucoup impacté le travail des humanitaires dans les régions de Ségou et Kidal. Les 10 rapports portent sur la période de juin et juillet 2024. Le point, c'est avec Fatia Tara.
Selon les rapports, le nombre des engins explosifs enfouis sur les itinéraires des aides humanitaires dans les deux régions a passé de 32 en mai à 20 en juin et 33 au mois de juillet dernier. Plus de 52% d'incidents sécuritaires sont liés aux attaques aux engins explosifs improvisés, rapporte OCHA. Les documents soulignent que le Mali a enregistré 84 incidents avec 4 personnes tuées à cause des engins explosifs la semaine dernière à Kidal. Dans ces documents, OCHA déplore également le cambriolage des locaux des humanitaires par des groupes armés. Un exemple, l'organisation cite l'interruption d'une distribution humanitaire par des terroristes dans la localité de Dofana, région de Tombouctou, le 5 juin dernier. Cet acte a été suivi de l'enlèvement de 4 membres d'une équipe humanitaire et un véhicule de service relâché plus tard. Ces agissements ont provoqué la baisse drastique des mouvements des humanitaires selon OCHA. Une situation qui a fortement impacté les populations vulnérables en besoin des aides humanitaires dans ces régions, souligne les documents. La complication de la situation sécuritaire a conduit à l'arrêt des activités de distribution humanitaire à Kidal et dans beaucoup de villages de la région de Ségou, précise les rapports.
Et l'utilisation des engins explosifs improvisés par les groupes terroristes est également dénoncée par les humanitaires dans la région de Mopti. Fakasi Fofana, coordinateur des ONG de la région de Mopti, indique que la menace EEI reste constante dans certaines zones de la région. Il est au micro de notre correspondant Mamadou Komina.
Mopti, l'ancienne découpage de ces deux zones, la zone est inondée. Et tout cela, il y a le problème d'engins explosifs aussi qui est actuellement en cours. Beaucoup, ils parlent aussi du fait que certaines parties, certaines zones sont carrément inaccessibles parce qu'il y a des engins qui sont enfouis, qui sont sous la terre là-bas. Mm-hmm. Et là, ça peut exploser n'importe quel moment. Donc, franchement, il y a certaines autres parties qui ne sont pas tellement recommandées en termes de déplacement. Donc, en un moment, c'est l'accessibilité qui pose le problème en ce temps-ci.
Vous pouvez donner votre avis sur ces informations sur notre page Facebook ou notre compte X, anciennement Twitter. Faut-il craindre une insécurité alimentaire cette année après les inondations survenues dans le pays? En tout cas, la situation préoccupe des producteurs dans plusieurs localités. Ceux-ci affirment avoir perdu des hectares de champs. À cela s'ajoute l'insécurité et les déplacements massifs des populations. Selon le système d'alerte précoce, plus de 52 000 personnes déplacées ont été enregistrées en cette saison hivernale dans les régions de Badiangara, Douanza, San, Diré et Gao. Imerena Kilumaiga nous en dit plus.
Plus de 2 000 hectares de champs ont été envahis par les eaux de pluie dans le cercle de Bankas et région de Bandiagara à la date du 8 septembre 2024. C'est dimanche ce qu'a déclaré Mamadou Kamara, directeur régional du développement social et de l'économie solidaire de Bandiagara. Cette situation fait craindre à certains producteurs de Bankas un risque de famine cette année.
Il n'y a même plus de terres cultivables. L'eau a tout détruit. L'insécurité est toujours présente et les zones dans lesquelles on peut cultiver sans danger ont été submergées par les eaux de pluie.
Les dégâts occasionnés par la pluie auront forcément un impact conséquent considérable sur les récoltes à venir.
L'insécurité alimentaire est déjà là. Nous demandons juste de l'aide aux autorités pour qu'on ne reste pas dans cette souffrance.
De son côté, le système d'alerte précoce souligne que des évaluations des pertes de cultures dues aux inondations sont en cours. Kadjali Koïté est responsable de la division technique du système d'alerte précoce.
Le gouvernement et ses partenaires sont en train d'intervenir. Distribution de céréales et puis de gaz transfert pour certains partenaires sont en cours. Nous, on est en train de former les enquêteurs qui doivent se rendre sur le terrain pour ces évaluations-là.
Il faut souligner que plusieurs localités ont été touchées par les inondations. Ces catastrophes ont emporté des hectares de cultures faisant planer une menace de mauvaises récoltes cette année.
Merci Ibrahima Kilumega. Changeons de registre à présent. Améliorer la qualité de la prise en charge des blessés, victimes des conflits armés et d'autres situations de violence. C'est l'objectif d'une session de formation débutée ce matin à Kati. Cette session de 3 jours initiée par le Comité international de la Croix-Rouge en collaboration avec le CHU de Kati et la Polyclinique des armées regroupe des agents de santé. C'est ce que nous dit Khalifa Goïta dans ce reportage.
Professeur Lai Touré, directeur général du CHI de Kati, estime que cette formation vient à point nommé. Pour lui, les différentes unités spécialisées vont tirer profit des échanges et discussions pendant ces 3 jours.
Nos différentes équipes, le service de traumatologie, d'anesthésie et réanimation, le service des urgences et d'autres spécialités comme la chirurgie abdominale prennent en charge ces blessés de guerre. Mais la nature des blessés ont beaucoup changé sur le plan de la gravité des lésions, sur le plan aussi de la cible. Nous pensons que c'est nécessaire de faire régulièrement une mise à niveau pour être en harmonie avec ce qui se passe sur le terrain.
Pour le coordinateur santé du CICR au Mali, leur approche aux côtés du personnel de santé s'inscrit dans leur agenda d'activité. Dr Moufouta Gabriel insiste sur le bien fondé de cette formation.
La prise en charge au niveau de cette institution nécessite une approche assez spécifique par des techniques qui sont simples, efficaces, qui utilisent des moyens limités. Chirurgicalement parlant, nous nous concentrons sur ça aujourd'hui, mais il y a aussi tout celui qui est traumatisé, qui vit une situation d'horreur sur le terrain, a besoin de prise en charge pour se reconstituer. Mais il y a des techniques qui permettent de mieux faire ressortir cette blessure.
Les responsables du CICR ajoutent que d'autres formations sont prévues dans l'avenir dans d'autres localités du pays.
TV5 Monde vient d'être retiré des bouquets des distributeurs autorisés au Mali pour une période de 3 mois. La décision a été prise aujourd'hui par la Haute Autorité de la Communication dans un communiqué de presse. Selon le document, cette décision fait suite aux violations des textes législatifs et réglementaires sur la régulation des médias décelés dans un élément de son journal Afrique du 26 août 2024. La sanction fait suite aussi à un avertissement que la HAC a adressé à TV5 Monde le 15 mai 2023 pour des manquements similaires. Ajoute le communiqué. Sport, à présent, l'afro-basket des moins de 18 ans. Les filles maliennes sont en demi-finale. Elles ont battu ce matin leurs homologues du Rwanda à Pretoria en Afrique du Sud sur le score de 86 à 57. Au même moment, les garçons ont de leur côté battu la Côte d'Ivoire sur le score de 73 à 69.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, Eurtel. Financé par l'Union européenne, les gouvernements du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Place à présent à la rubrique On en parle. Deuxième journée des éliminatoires CAN-Maroc 2025. Le Mali se relance dans la course. Les Aigles ont battu hier les boucliers du roi de l'Eswatini en Afrique du Sud. Des supporters des Aigles de Bamako, Yoroso, Kita et Yelimani donnent leur avis sur les performances des Aigles et font des propositions aux nouveaux sélectionneurs. Des propos recueillis par Lale Tangara avec le concours de nos correspondants locaux.
J'ai bien apprécié le comportement de l'équipe contre Eswatini 1-0 et conservé pendant les 90 minutes. C'était bien à prendre, surtout après un match dur décevant à Bamako.
Les matchs du Mali se déroulent bien, mais de nombreux défis attendent le nouveau sélectionneur.
Après le match nul à Bamako, les Aigles du Mali ont gagné à l'extérieur. Cependant, l'entraîneur doit améliorer les tactiques défensives, offensives.
L'équipe du Mali a beaucoup de qualités, donc elle doit rehausser son niveau de jeu, mettre beaucoup plus de rythme et d'envie surtout pour pouvoir inquiéter ses adversaires. Mais aussi le problème de cette équipe, c'est qu'elle ne concrétise pas ses occasions.
Je vous le disais au sommaire, notre rubrique Zoom sur d'aujourd'hui met l'accent sur la concurrence entre co-épouses dans les foyers polygamiques. C'est avec Lale Tangara.
Kadi et Fatou sont toutes les deux mariées à Amadou. Les deux coépouses partagent la même cour. L'heureux époux Amadou est chouchouté par ses deux femmes, chacune en sa manière. On peut bien dire que ce foyer conjugal est exceptionnel. Vraisemblablement, il n'y a aucun conflit entre ces deux femmes, car elles se disputent rarement. Mais chacune d'elles reste sur ses gardes. Les moindres faits et gestes sont enregistrés. Si aujourd'hui Kadi, la première femme, offre du tissu cousu à Amadou, le lendemain matin, Fatou le surprend avec du basin brodé. Elle va jusqu'à écrire son nom dessus, Fatouka Amadou, pour montrer le degré de son amour. C'est une manière pour elle de marquer leur territoire et à n'importe quel prix. Quant au mari Amadou, il en profite bien. Il va même, avec malice, susciter la concurrence entre ses épouses. Pour lui, cela vaut mieux que les disputes inutiles. Toujours bien habillé, du pied à la tête. Et avec de la classe, hein, et s'il vous plaît, sans dépenser un rond. Vous convenez donc avec moi que c'est vraiment un foyer exceptionnel. Seulement, à ce rythme, est-ce que le mari ne risque pas d'attirer une troisième?
Alors, mesdames, sachant raison garder, retrouvez désormais nos productions sur WhatsApp à travers le numéro suivant, 75 99 76 19. Vous pouvez aussi faire un tour sur notre site ou notre page Facebook et cliquer sur l'icône WhatsApp. Sékou Gadjigo, nous arrivons dans ces studios pour l'introduction du débat. Sékou, bonsoir. C'est quoi
quelle
le thème
solution
du jour
face aux... Quelle solution face aux inondations au Sahel? C'est le thème du débat d'aujourd'hui. Un débat coproduit à Maradi au Niger par Studio Kalango du Niger, Studio Tamani du Mali et Studio Yafa du Burkina Faso, trois médias de la Fondation Hirondelle. Nos invités sont au nombre de quatre, Maman Bachir, directeur régional de l'action humanitaire et de gestion des catastrophes de Maradi au Niger, colonel Dan Fatima de la direction régionale de l'environnement de Maradi au Niger, docteur Bill Assanou, enseignant-chercheur à l'université d'Andiko d'Ankoulodo de Maradi et docteur Moussa Souley, enseignant-chercheur également à l'université d'Andiko d'Ankoulodo de Maradi au Niger.
Merci Sékou Gadjigo, un débat à suivre juste après ce journal. Et point final d'ailleurs à cette édition, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez l'écouter gratuitement sur et les magazines qui va suivre en appelant le service Kounafoni au 37 321. C'est gratuit, vous devez seulement avoir 100 francs de crédit dans votre téléphone. Bonsoir à nos auditeurs de d'Andalesso. La détresse respiratoire est définie par des professionnels de la santé comme étant une incapacité de l'appareil respiratoire à assurer les besoins en oxygène de l'organisme. Ce type d'insuffisance respiratoire est développé chez les nouveau-nés, selon des experts en santé. Cependant, il existe de nombreuses causes à cette altération de la fonction pulmonaire. Les cliniciens identifient la complication d'une maladie respiratoire ou cardiaque. La détresse respiratoire peut parfois persister avec des signes plus inquiétants. Alice Cissé pour le magazine Santé.
Cette pathologie est perceptible chez le nouveau-né dès les premières heures de sa naissance, indique Dr Mamari Koulibaly, clinicien pédiatre à la polyclinique Pasteur à Bamako. Il affirme que cette sensation de respiration difficile et inconfortable chez les nourrissons se hisse en tête de la liste des pathologies les plus fréquentes.
Quand on prend les pathologies qui sont très fréquentes chez les nouveau-nés, pratiquement on peut dire que la détresse respiratoire prend la première place, que ce soit les pathologies infectieuses ou les pathologies cardiaques ou les malformations. La détresse respiratoire pratiquement prend la première place. Les différentes causes de cette détresse respiratoire, ça se répartit en des grands groupes, les causes médicales, nous avons les causes chirurgicales également.
Cette difficulté dans la respiration des nouveau-nés est bien connue des mères de famille à Bamako et à l'intérieur du pays. Certaines mamans rencontrées à Bankas, Bafoulabé, Mopti ou encore Sikasso témoignent.
Mon bébé a eu un mois de sa naissance, un problème en ce moment, sa respiration est accélérée. Lorsque cette détresse respiratoire est un peu prolongée, je l'amène le plus tôt possible au centre de santé.
Un enfant dont la maman a subi une césarienne était entre mes mains. Il avait des difficultés à respirer, je lui ai fait un massage cardiaque.
Après mon accouchement par césarienne, mon enfant avait une incapacité respiratoire. Il avait inhalé du liquide amniotique. Je l'ai aussitôt amené à la pédiatrie.
Un de mes enfants avait cette détresse respiratoire. C'est épuisant et ça rend fébrile l'enfant.
Les professionnels de la santé évoquent quelques signes annonciateurs de la gravité d'une détresse respiratoire. Docteur Omar Abibou Diallo, pédiatre.
Plus large et petit,
Plus le risque de gravité est là, le nourrisson de moins de 6 mois en plus de gravité. Les antécédents pathologiques, un enfant qui a une cardiopathie congénitale, qui a des atteintes pulmonaires, a plus de risques de gravité que ceux qui n'en ont pas. La prématurité expose à des risques de gravité. Également, lorsque l'enfant a une incapacité de téter, donc on peut penser que ceci est un critère de gravité.
Quelles sont donc les causes d'une détresse respiratoire chez un nourrisson? Comment savoir qu'un enfant fait une détresse respiratoire? Docteur Mamari Koulibaly révèle des indices qui nécessitent une prise en charge d'urgence.
Nous avons surtout l'infection néonatale sur le nouveau-né. Après, les causes de détresse respiratoire d'ordre chirurgical, notamment on a l'atrésie de l'œuf sauvage. On peut avoir une perforation qu'on a pour savoir qu'un nouveau-né fait la détresse respiratoire. C'est avec les indices de surveillement, notamment le battement des indignés, le tirage intercostal. La détresse respiratoire fait partie des signes d'urgence médicale.
Il n'existe pas une prise en charge exacte de la détresse respiratoire des bébés, insiste de son côté Dr Oumar Habibou Diallo. Ce praticien affirme que le diagnostic se fonde sur plusieurs critères.
Donc cette prise en charge peut être médicale, chirurgicale ou médico-chirurgicale. Il faut déjà identifier l'étiologie de la détresse respiratoire et adapter une prise en charge correcte selon les recommandations de cette pathologie. Cependant, au vu de l'urgence, lorsque les signes sont aussi graves, nous pouvons procéder à ce qu'on appelle une libération des voies aériennes supérieures.
Les nourrissons qui naissent par césarienne sont plus exposés à une détresse respiratoire que ceux qui naissent par voie naturelle.